Musique du Monde. Laurence Aloua. Tegui Mfatrori. Musique du Monde sur RFI.
Et c'est la guitare qui sera au centre des musiques du monde aujourd'hui, un instrument qui a les faveurs de la jeunesse du monde entier, et des seniors aussi. Dans cette émission, on va savoir enfin qui a popularisé la guitare électrique en Azerbaïdjan. Mais d'abord, on fait un petit détour par la Bretagne avec Naoned, qui veut dire Nantes en breton. C'est le premier album solo de Maxime Delpierre, qui a entre autres accompagné Rachid Tah. C'est le cofondateur du groupe de musique instrumentale Limousine, ça c'est à Paris. Il est également partie prenante du groupe Viking, avec le saxophone Thomas de Pourquerie. Maxime est un expert en tout, du jazz au rock, avec élégance et curiosité. Bonsoir. Le titre que l'on vient d'écouter s'appelle, on dit Naoned ?
Naoned.
Naoned. Naoned, ça veut dire Nantes en breton.
Exactement.
Maxime Delpierre, vous êtes né à Nantes en 1975. Je ne précise ni le jour, ni le mois, de manière à ce que vous ne soyez pas trollé.
Merci.
Parce qu'on ne vous vole pas votre identité sur les réseaux. Vous êtes un guitariste autodidacte, pas de conservatoire, pas de prof.
J'ai eu quelques profs quand même. C'est vrai que je n'ai pas été au conservatoire, mais j'avais un super professeur de guitare à Nantes quand j'étais adolescent qui s'appelle Philippe Evenot, qui est connu maintenant pour avoir travaillé avec Philippe Catherine pendant très longtemps, jusqu'à il y a encore pas longtemps. Je pense qu'il joue, je sais pas s'il joue encore avec lui en ce moment même, mais...
Donc il a dû porter des collants roses.
Voilà, exactement.
Nous sommes de tout cœur avec lui. Non, je plaisante. Si on vous invite dans l'émission, Maxime, c'est que vous sortez pour la première fois un album sous votre nom. On vous a connu avec différents groupes d'excellente qualité. Je pense à Limousine, à Viking, avec Thomas de Pourquerie, à Viva... Et la diva, on s'est rencontrés il y a quelques années, vous accompagnez Rachita, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Grand Studio en bas, ça devait être en 2013 ou 2014, je ne sais plus exactement.
Oui, tout à fait. C'est la première fois que je suis venu ici.
Ouais, et je ne sais pas si c'est votre jeu guitare ou votre visage, mais je vous ai imprimé. Et je me suis dit, celui-là, on va le suivre.
Eh ben, j'espère que c'est les deux.
Oui, c'est les lunettes, c'est sûr. Vous avez joué avec Rachita, mais aussi avec le jazzman, clarinettiste et saxophone Louis Clavis, avec Jeanne Haddad, dont vous êtes proche, avec qui vous avez fait des duos il n'y a pas très longtemps.
Oui.
Alors, Naoned, ça vient de quoi? Ça fait combien de temps que vous avez envie de faire un album sous votre nom, sans le reste de la bande, parce que vous marchez en famille, vous?
Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que disons que les projets avec le reste de la bande, ça a été très très accaparant et super passionnant pendant je dirais plus d'une dizaine d'années. Un album à mon nom, il en était déjà question, je dirais il y a plus de 10 ans. J'avais déjà reçu la proposition d'un label sur un projet comme celui-là. J'avais pas complètement, je considérais que j'étais pas prêt, que j'avais pas la musique. Je me souviens lui avoir envoyé des démos et avoir à peu près réuni tant bien que mal une vingtaine de minutes de composition avec des essais comme ça. Je trouvais pas ça super concluant, je me sentais pas prêt, voilà. Donc j'ai préféré continuer à avancer avec des projets, avec des groupes, avec des noms de groupes aussi. J'aimais bien cette idée-là. En fait, j'étais pas complètement convaincu par le fait de devoir faire un projet qui porte son propre nom. Je croyais plus en la fiction. Par exemple, j'aimais beaucoup le projet Viva and the Diva parce que voilà, ça m'emmenait complètement ailleurs. Il n'était pas question que de moi. Même la plupart du temps, comme je travaillais aussi avec des chanteurs, du coup, ça laissait une vraie place aux chanteurs. J'aimais bien aussi ce métier d'accompagner, de mettre en valeur quelqu'un d'autre.
Et là, vous avez le sentiment que vous êtes obligé de vous mettre en valeur, ou la guitare a quand même une certaine retenue?
Eh bien, je dirais que je me sens plus à l'aise en fait avec le fait de jouer de la guitare simplement, voilà, et d'être là et de me dire que a priori je peux peut-être avoir des choses à dire, que ce langage guitaristique il s'est fabriqué avec le temps aussi, avec les expériences, et que finalement voilà, j'espère que c'est pas ennuyeux, quoi. C'est vrai que comme je passe quand même pas mal de temps à écouter de la musique, pas forcément chanter, je trouvais ça aussi assez cohérent de revenir à un projet qui soit pas avec le chant au centre.
Naoned, on l'a dit en tout début d'émission, ça veut dire Nantes en breton. Naoned, de toute manière, on l'a sur les panneaux de signalisation.
Exactement.
Mais c'est partout en France, hein, dans le sud de la France, par exemple Saint-Raphaël, c'est Saint-Raphaël, en Provençal, en dessous. Est-ce que le fait d'appeler cet album Nantes, mais en breton, vous ouvre un champ géo-musical différent? Est-ce que ce serait une ville un peu fantasmée? C'est quand même la ville de l'enfance, donc c'est pas rien.
Tout à fait. Alors, en fait, c'est vrai que c'est une ville un peu fantasmée, c'est un peu de nostalgie aussi, je pense. Parce que ça fait maintenant plus de 20 ans, bien plus de 20 ans que j'ai quitté Nantes, que par exemple le fait que Naoned se trouve sur les pancartes à l'entrée et à la sortie de la ville, c'est quelque chose que j'ai découvert en habitant à Paris. C'est-à-dire que j'avais jamais fait attention à ça.
Ça s'appelle Lutèce en dessous.
Voilà, non, exactement. Et c'est vrai que c'était rigolo en tout cas de voir ça, et c'était quelque chose qu'on aimait bien, comme presque une petite blague exotique, de se dire en tant que Nantais, voilà, je passe le week-end à Naoned. C'est quelque chose qui est arrivé par le fait de ne plus y vivre. Après, c'est comme un terrain de jeu, je dirais. C'est-à-dire qu'évidemment, en habitant à Paris ou en région parisienne, on peut avoir assez facilement le fantasme de la campagne, le fantasme d'habiter au bord de la mer. Exactement ce qu'on n'a pas ici, quoi. C'est-à-dire d'aller regarder sur le jardin du voisin et de se dire, bon, bah, ça a l'air sympa quand même d'avoir des arbres. Comme ça doit être super de se balader sur la plage après une journée de travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on habite à Paris.
Oui, surtout donc, quand on a passé des mois en confinement. Ça, on le perçoit d'autant plus.
Oui.
Maxime Delpierre, j'aimerais vous faire écouter un petit peu de musique. Je pense que ce que vous allez entendre correspond peut-être aussi à la période où vous avez pensé cet album, Naoned. C'était un extrait de On the Beach, un titre sur l'album On the Beach de Neil Young qui est sorti en 74. Je voulais passer parce que je sais que vous l'avez écouté et la pochette est assez étrange. On voit un type sur la plage de dos, mais ce qu'on voit en premier, c'est des parasols. On voit une Cadillac qui est enfoncée dans le sable. Et surtout, il y a une de journaux qui est très intéressante qui dit « Le sénateur Buckley demande à Nixon de démissionner ». Vous, votre pochette, Maxime Delpierre, on voit un mur, on voit un panda, une fenêtre, des valises, mais on vous voit pas.
Non, c'est vrai que il a. Disons qu'en fait, j'ai fait appel à. J'ai la chance d'avoir un ami artiste qui s'appelle Sylvain Chopin Bernard, qui suit mon travail depuis un bon petit moment. Et puis c'est quelqu'un qui m'inspire parce que bon, déjà c'est un super musicien à la base. C'est aussi quelqu'un qui travaillait avec Jeanne justement il y a très longtemps. C'était un pianiste de jazz à la base. Qui est devenu artiste plasticien et qui est très discret, mais qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui travaille beaucoup, qui pond pas mal d'œuvres. Et à un moment, il s'est lancé dans une série de collages. Ça m'inspirait beaucoup au moment où j'ai fabriqué mon album. Donc, je lui ai demandé tout simplement de réaliser la pochette, c'est-à-dire de faire un univers visuel autour de ce disque. Donc, il a suivi chaque étape, toute la production du disque, toutes les versions de chaque titre. Parce que c'était un voisin aussi. Maintenant, j'ai déménagé, mais. C'était un voisin, donc je le voyais vraiment très souvent.
Vous êtes photogénique, pourquoi vous ne vous mettez pas en couverture de cet album ?
Peut-être la prochaine fois, mais c'est vrai que j'y ai même pas pensé, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui est vraiment super dans la pochette de On the Beach aussi, c'est aussi le fait que...
Neil Young
est de dos, un peu loin et en arrière-plan. Et je ne sais pas si c'est un positionnement qui m'intéresse plus. Je trouve ça fort, en fait. J'aime beaucoup cette pochette pour ça, parce que je trouve quand même qu'on bloque sur lui et qu'on sent qu'il est là. Et j'aime bien la manière dont il se présente... Le fait qu'il se présente de cette façon-là, je trouve ça assez puissant.
Autre extrait qui, à mon avis, devrait pouvoir évoquer quelque chose pour vous. C'était un extrait de Walk Don't Run d'Avenger. Alors ça, c'est un groupe qui date de la fin des années 50. C'était un extrait d'une émission télévisée. Eux, c'était le rock instrumental, la musique surf. Alors, je suis pas surprise, mais la musique surf, quand on vit à Nantes, c'est pas forcément évident, puisque Nantes n'est pas au bord de l'océan.
Pas vraiment, non. Enfin, ça n'est pas très loin non plus, mais ouais. C'est vrai que non, c'est plus. En fait, ça me vient de mon père. Il est aussi guitariste. Bon, c'est pas son métier, mais il jouait de la guitare en amateur. Il écoutait beaucoup de musique, et notamment beaucoup de musique à guitare. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la guitare, c'est un des premiers trucs que j'ai commencé à essayer de faire. Je relevais aussi, j'essayais de jouer des morceaux de Jimi Hendrix ou Chuck Berry, mais j'essayais aussi de jouer les Ventures ou les Shadows, les Sputniks. J'aime toujours beaucoup cette musique-là, je trouve ça... C'est marrant parce qu'il y a une espèce de joie dedans, il y a quelque chose comme... Il pourrait y avoir une dimension assez kitsch, mais en même temps, c'est quand même une musique à la... enfin, je sais pas, qui arrive à exister sans chanteur, uniquement par le son des guitares.
Et comment est reçu votre album ici en France? Parce que je suis pas sûr qu'on ait une tradition de musique instrumentale dans notre petit pays.
Non, c'est vrai, mais j'ai du mal à savoir de quelle manière il est reçu exactement. Mais je dirais qu'on a l'avantage en France quand même, on est fan par exemple, on est fan de Cronenberg ou de David Lynch. On est fan de free jazz, c'est un pays qui a accueilli beaucoup d'artistes de la culture noire américaine dans les années 60. C'est pas donné à tous les pays forcément, donc c'est aussi un pays qui a l'avantage d'avoir toujours une certaine forme d'avant-garde qui peut être là. Et je pense que des projets un peu, on va dire, entre guillemets, audacieux peuvent avoir quand même une chance d'exister. D'une vision positive, je dirais ça. Ce qui va me manquer plus avec la France, c'est tout simplement l'existence du rock. Moi j'en écoute beaucoup, j'ai eu la chance de voyager, d'aller jouer dans des pays où ils en écoutaient visiblement beaucoup aussi, où il y a un vrai marché sur cette musique. C'est pas vraiment le cas ici. Voilà, c'est vrai que quand on allume la radio, on n'entend pas de rock, tout simplement.
Maxime Delpierre est notre invité pour la sortie de son album Now and Then. Je vous propose d'écouter un autre titre, c'est Holy Criminal, avec la participation de Edith Prog. Edith n'est pas une femme. C'était le titre Holly Criminal, cet extrait du premier album sous le nom de Maxime Delpierre, guitariste, compositeur. Alors là, il y a quelqu'un qui chante, qui se fait appeler Edith Prog. Qui est-ce, Maxime ?
Alors Edith Prog, en fait, je l'ai rencontré, c'est le père d'un ami qui s'appelle Kali. Ils sont tous les deux, en gros, chanteurs, songwriters. Ils sont guitaristes. Edith, c'est un super musicien, super guitariste qui a plusieurs pseudos dans le monde de la musique. Hein. Il a aussi...
Edith, c'est pas banal.
Il s'appelle aussi Bernard Swell, par ailleurs. Il écrit pour Véronique Sanson depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a vécu en Californie à une époque et qui a, je trouve, totalement cette culture du ce qu'on pourrait appeler un genre de folk rock californien des années 70. Pour moi, c'est un Neil Young de proximité. Quoi. En gros, c'est quelqu'un que j'ai l'occasion de voir régulièrement, qui fait aussi beaucoup de musique de film maintenant. Et de la musique électronique sous le nom d'Edith Prog.
Bah vous aussi, musique de film, vous en avez fait un avec Limousine, c'était pour Les Deux Fils de Félix Moati.
Oui,
qui est sorti il y a un an ou deux ans, il y a deux ans.
Ah oui, ouais. Ça passe vachement vite. Ouais.
Est-ce que vous faites comme Ennio Morricone, vous imposez votre musique et que le réalisateur se débrouille avec cette musique, le mette sur les images qu'il veut ?
Et non, ce serait super si on pouvait faire ça.
Alors mais
ça,
mais
ça
faut être
génial.
Un grand.
Faut être vraiment très très grand. Je suis même pas sûr aujourd'hui qu'Alexandre Desplat puisse faire ça en fait. Je crois que c'est aussi une façon de travailler entre les réalisateurs et les compositeurs. Ça énormément changé. Il n'y a plus cette même place, tout simplement. Je crois que c'est des histoires d'argent. À une époque, je crois qu'ils mettaient 50% du budget d'un film dans la musique. Donc là, c'est sûr qu'on en est très très loin.
Le cinéma, évidemment, vous attire quand on écoute votre musique qui se suffit à elle-même, hein, que les choses soient claires. On n'a pas besoin d'avoir des images pour l'écouter. Mais déjà, l'aventure avec Limousine, je sais que vous avez travaillé aussi sur un court-métrage, vous avez travaillé avec des circassiens. Enfin, vous êtes ouvert à d'autres arts. Enfin, la musique est ouverte chez vous, ce qui est pratique, hein, période de Covid. On n'attend pas de faire de la scène pour gagner sa vie.
Oui.
On peut travailler avec un studio, faire de la pub, etc. Vous attendez, vous aimeriez vous mettre sur un long-métrage.
Bien sûr.
Ouais, c'est ouvert.
C'est un rêve parce que je suis très fan de cinéma. Je pense que voilà, je passe beaucoup de temps à regarder des films. Hein. J'adore ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai découvert le cinéma. Ça a commencé à rentrer vraiment dans ma vie quand j'étais la petite adolescence. Quoi. Je devais avoir 13 ans. Le cinéma de minuit sur France 3. J'ai commencé à regarder un petit peu les Truffaut en série, puis Hitchcock, etc. Et ça s'est jamais arrêté en fait.
Qui sont les compositeurs de musique de film on a parlé évidemment évoqué. Je dis bien évoquer Ennio Morricone et vous avez parlé de Desplat aussi, qui a été oscarisé. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens que vous trouvez
j'aime beaucoup
prodigieux?
Howard Shore, ouais, j'aime beaucoup les musiques de ses films, enfin les musiques qu'il a écrites pour les films. Je trouve ça assez fort, il y en a pas mal.
Je vous propose d'écouter un autre titre qui s'appelle Alternative Folk, c'est probablement un aveu dans cet album, qui s'appelle Naonen. Maxime Delpierre est notre invité. Thank you. ambiance alternative folk, cet extrait de Naoned, le nouvel album de Maxime Delpierre. Maxime, vous pensez à quoi quand vous composez ce style de musique? Vous êtes face à la mer, il y a une grosse déprime, le prequel du confinement?
Alors en fait, ce morceau, c'est presque un écho, on va dire, dans le disque avec l'autre morceau qui s'appelle Clouds and Echoes, justement. En fait, c'est quasiment le même morceau. Et lorsqu'on était en studio, à un moment on discutait, on venait d'enregistrer Clouds and Echoes, donc on avait la musique de Clouds and Echoes qui nous tournait dans la tête. Et j'étais avec l'ingé son Thomas Bugnot, super ingé son qui a enregistré et mixé l'album au studio Delta.
Il est où le studio Delta? C'est à Paris. Voilà.
Grâce à Rodolphe Berger qui m'a présenté ce studio, qui se trouve à 200 mètres de chez lui.
Songwriter, rocker, voilà. Français. Et je dis ça parce qu'on nous entend dans le monde entier, ouais. Donc pour certaines personnes, le studio Delta,
oui,
Paris, c'est très très loin.
Mmh. Voilà. Tout à fait. Et donc, on était en train de discuter, et Juan, le bassiste, en train de discuter avec nous, a commencé à jouer cette partie de basse qui ouvre le morceau. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il a une manière de rejouer, c'est une réécriture de Clouds and Echoes qu'il est en train de faire. L'ingé son s'est dit la même chose, donc on l'a enregistré. J'ai rajouté des guitares par-dessus, David Akna a repris sa petite boîte magique qui s'appelle Electribe, qui est une sorte de petit synthé boîte à rythme. Il a fabriqué, comme ça, il a improvisé une petite mélodie par-dessus, ça a fait le morceau.
Vous allez vous retrouver sur scène, alors on le précise, même si c'était en région parisienne, parce que c'était suffisamment rare en ces temps de Covid. Vous allez jouer le 10 septembre à la Dynamo de Banlieue Bleue, à Pantin. Vous serez sur scène avec Juan de Guibon, votre bassiste, et David Aquin, le batteur, ou il y aura d'autres personnes encore sur scène?
On va inviter un super pianiste italien qui s'appelle Fabrizio Ratt. Voilà, qui a un projet qui s'appelle La Machina. C'est quelqu'un, en gros, qui rejoue, qui réinterprète une musique électronique avec un piano. Immédiatement sur le piano, il joue tout directement, de façon analogique, avec une façon de traiter dans le piano préparé, de répéter les séquences, de pouvoir répéter exactement les 5 mêmes notes en mode arpeggio, on va dire, comme on fait faire au synthé, souvent à partir d'un ordinateur. C'est un ordinateur qui pilote le synthé, qui va faire que ça va donner... ça, et lui il le joue à la main, c'est un virtuose, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision de l'instrument, une façon de faire exister le piano dans notre époque, que je trouve assez unique.
Comment ça se passe pour vous? Je pense évidemment au printemps qu'on a eu cette année, donc 2020, le confinement, etc. Comment ça s'est traduit dans votre vie? Ça a changé beaucoup de choses, sortie d'albums, les concerts. Est-ce qu'on peut appeler ça des concerts quand on est à 1m50 les uns des autres avec un masque, qu'on ne peut pas se toucher, qu'on n'a pas le droit de danser? Enfin, tout est assez compliqué.
Pour le moment, c'est compliqué, je trouve aussi. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on est très content de jouer quand on joue. Nous, on a eu la chance, j'ai recommencé en jouant à la gare fin juin, donc la gare Club dans le 19e à Paris.
Voilà, qui existe maintenant depuis quoi, 3-4 ans?
Voilà,
c'est très... Et qui reçoit le jazz, les nouvelles musiques, enfin, toujours des projets musicaux assez audacieux.
Oui,
et
puis...
Un bel endroit.
Qui nous donne la possibilité d'improviser. En gros, on est quand même assez libre. Ça a la particularité de nous demander de jouer plusieurs sets. C'est quelque chose qu'on avait un peu oublié, qu'on faisait il y a une quinzaine d'années quand on allait... jouer dans les clubs de jazz de la rue des Lombards, dans le premier arrondissement à Paris. Et c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait faire 2, 3, 7, enfin c'était obligatoire. Et donc la gare, c'est peut-être le premier lieu qui nous demande, qui impose aussi ça depuis très longtemps. Finalement.
Est-ce que c'est pas eux qui avaient demandé là récemment, un groupe joue pour une seule personne, un seul morceau?
Tout à fait, moi je l'ai fait fin juin.
Ouais.
C'était vraiment une expérience unique.
Et donc vous avez joué combien de fois, pour combien de personnes?
Je saurais pas le dire, parce qu'en fait j'ai commencé à jouer à 21h30. Et pour le coup, on n'est pas obligé d'attendre que la salle se remplisse. Ça, en général, on commence les concerts à 22h à la gare. Et là, à 21h30, j'étais en selle. C'est parti avec une personne ou deux. Souvent, la plupart du temps, il y avait des couples quand même. C'était pas toujours juste une personne en face. C'est arrivé. Et j'ai fini à 1h30 du matin. On était deux à alterner avec Antonin et Marie. Voilà, donc on faisait chacun des solos à tour de rôle. Donc on a passé aussi beaucoup de temps à attendre, à discuter avec les gens dehors. Et puis finalement, on y est retourné. Je dirais que passé minuit, je ne sais plus vraiment devant combien de personnes j'ai joué. J'ai que des souvenirs. C'est improbable en fait. J'ai l'impression en plus d'avoir joué 3 morceaux, mais j'ai bien aimé parce que j'ai eu l'impression de... Je venais d'écrire des débuts de pistes pour la suite de Naoned en gros. Et j'ai pu les développer, les travailler. J'ai joué 10 fois les 3 mêmes morceaux, je pense, à peu près.
Comment vous voyez l'avenir, pour vous, le développement de cet album, Naoned, vos projets?
Je pense qu'on va faire les concerts qu'on peut faire, là où les programmateurs se battent pour arriver à maintenir leur programmation. Je dirais que je rentre dans... C'est toujours un peu aussi des histoires de hasard, de situation. Hein. C'est vrai que c'est une musique qui... J'aime avoir un public debout, mais on a aussi la possibilité de pouvoir jouer devant un public assis. Donc à partir de ce moment-là, on rentre quand même un petit peu dans les cases.
Oui, ça se mente moins. Ça,
voilà.
Oui.
Donc on a quand même.
Ça pogote pas.
Voilà, on a des festivals qui viennent. On ne sait pas exactement ce qui va être maintenu, ce qui va pas être maintenu. Je pense qu'on est tous à l'aveugle là-dedans. C'est pas du tout. Voilà, on essaye de pas trop s'inquiéter. C'est pas évident.
Gisèle Villette, c'est le 10 septembre pour vous, Maxime Delpierre. Alors, oui. Vous m'avez dit que Clouds and Echoes, que j'avais prévu en fin d'émission, ressemble beaucoup à Alternative Folk. Je suis d'accord avec vous. Donc, si vous voulez, on passe un autre morceau et je vous laisse choisir.
Alors, peut-être No Ego Zone.
Ouais, il est très rock.
Il est très rock, oui.
Bah, racontez-moi le titre.
Alors, le titre, en fait, bah, justement, c'est un morceau. Au départ, on a enregistré ce morceau en version pour nous. On faisait un instrumental et on devait accueillir une voix dessus. Donc c'est quelque chose qui était en train de s'organiser, on était en studio, voilà, on a enregistré le morceau, j'avais pensé à une voix et ça n'a pas pu se faire pour des histoires de timing. Donc après je me suis dit c'est pas grave, ce morceau on le jette ou on le revisitera plus tard. Et finalement, complètement par hasard, j'ai fait une écoute de l'album en cours à la maison à quelques amis. Et sans faire exprès, je l'ai mis. J'ai mis la version instrumentale exactement telle qu'on l'a enregistrée. Et on a trouvé ça chouette, voilà, ça nous a plu avec les amis, voilà, j'étais à la maison, bon, en fait c'est pas mal, j'aimais bien la manière dont la percussion introduit le récit, permet de tenir comme ça une espèce de longueur aussi parce que je suis un fan de krautrock, donc j'aime bien ce genre d'univers, et voilà, c'est comme ça qu'il est resté. Pour moi No Ego Zone c'est finalement un morceau où la parole est prise d'une façon inhabituelle.
Chanterai un jour, à part des vous.
J'aimerais bien, mais je pense que vraiment c'est pas pour moi, malheureusement. Non, j'aurais bien voulu, mais bon, je me suis jamais trop penché sur la question non plus, parce que au-delà même des fois de savoir chanter ou de pouvoir faire des ou, etc., il y a aussi le mental d'un chanteur, la personnalité d'un chanteur. Je me reconnais pas. Pour moi, je suis vraiment un guitariste.
No Ego Zone, pour faire un clin d'œil à la No Go Zone, c'était l'an dernier où il y avait des endroits qui n'étaient... Enfin bon, bref, quoi. Une histoire sinistre. Merci Maxime Delpierre.
Merci Laurent.
À bientôt.
musique du monde sur RFI.
Place à un guitar-héro d'Azerbaïdjan, il s'appelle Rustam Kouliev. Le label suisse Bongo Joe a eu l'heureuse idée de faire une sortie internationale pour cet artiste à la courte mais prestigieuse carrière, parce que le guitariste est mort en 2005 à l'âge de 36 ans. C'est son neveu Vasis Javadli qui va nous raconter toute l'histoire.
Aziz musiqi həvəskarları, yeni lent yazılarımızı sizə təqdim edirik. Timsat orada müşayiət edir, Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.
Rustam Kouliev est né en 69 dans le Haut-Karabakh. Alors c'est une partie du monde à l'histoire mouvementée, soviétisée en 1920, puis république autoproclamée, revendiquée par l'Azerbaïdjan, mais avec une population majoritairement d'origine arménienne. C'est compliqué. Voilà d'où vient ce guitariste, disparu en 2005, représenté par son neveu, Vasis Javadli. Alors Vasis fait ses études d'ingénieur au Luxembourg en ce moment. Comme beaucoup de musiciens azéris, Rustam a commencé la musique avec des instruments locaux, comme ces luths à manches longues qu'on appelle saz ou tar. La guitare viendra plus tard. Vasis Javadli. Rustam Kouliev s'est intéressé très jeune aux instruments traditionnels que sont le tar et le zaz, qui sont des luths azéries. Et puis il est parti en Russie pour faire son service militaire. C'était obligatoire quand nous étions sous domination soviétique. Et c'est en Russie qu'il a commencé à jouer de la guitare et se familiariser avec la pratique de la guitare classique. C'était un guitariste très respecté auprès de ses collègues à l'armée. Et puis, il est rentré au pays. Après la guerre dans le Haut-Karabakh qui a opposé l'Azerbaïdjan à l'Arménie, la famille est partie vivre à Bakou, la capitale azérie, et il a également obtenu son diplôme d'ingénieur. Et puis il a réalisé que l'ingénierie n'était pas son truc. Il n'avait qu'une seule envie, se perfectionner à la guitare avec un jeu qui lui était propre. Il est donc passé musicien professionnel. Et à partir des années 90, il a sorti à peu près une cassette par an. Sa musique n'était pas seulement écoutée en Azerbaïdjan, mais aussi en Russie, en Turquie, en Iran et dans d'autres pays d'Asie. Il était devenu très populaire. Mais malheureusement, la maladie l'a stoppé. Il est mort d'un cancer des poumons en 2005 et il avait 36 ans. We'll be right back. Est-ce qu'on peut dire que votre oncle a été celui qui a introduit la guitare électrique en Azerbaïdjan?
Non,
c'est Ramish qui a introduit la guitare électrique en Azerbaïdjan. En revanche, c'est bien mon oncle qui a popularisé et fait aimer la guitare électrique dans le pays, car son amour de la chanson était tel qu'on ne pouvait pas lui résister. Dans sa musique, on sent que de temps en temps, votre oncle va vers des traditions musicales qui n'ont plus rien à voir avec l'Azerbaïdjan. Il y a des sons qui sonnent quand même très Bollywood, c'est-à-dire la musique que l'on produit pour le cinéma indien. Qu'est-ce que les radios azéries proposent? Parce que je sais que la radio a souvent joué un grand rôle dans l'éducation musicale des uns et des autres. Alors, comme vous le savez, l'Azerbaïdjan se situe à l'intersection de l'Europe et de l'Asie. De fait, la culture azérie est une combinaison 50-50 d'Asie et d'Europe. Historiquement, l'Azerbaïdjan est un passage entre l'Asie et l'Europe, ce qui fait que ce pays est un carrefour culturel important. Donc oui, il y a de la musique indienne, mais aussi arabe, turque. L'Azerbaïdjan est un pays de mélomanes. Mon oncle, Rustam Kuliyev, était quelqu'un de très curieux, toujours en train de chercher, toujours en quête de quelque chose de spécial, de la nouveauté. On termine cette émission avec un autre amoureux des instruments à cordes, Mathias Duplessis avec ses Brothers of String, autrement dit ses frères de cordes. Duplessis est à la guitare, Epi à la vielle mongole, Guogan à l'erhu, qui est le violon chinois, et le nickelharp suédois d'Alyosha. Le quatuor s'aventure sur le bon, la brute et le truand, d'Ennio Morricone. Et sur ce, je vous souhaite un bon voyage. À demain, merci.